Bienvenue à séance régulière, lundi 5 décembre 2022. Steve Laberge, maire.
Jean-Luc Payen, conseiller.
Marie Anderson, conseiller.
Suzanne Demers, conseiller.
Richard Baudin, conseiller.
Marc Roy, conseiller.
Martin Lafont, conseiller.
Manuel Boutillette, directeur général et greffier.
Claudine Baudin, adjointe à la direction générale du mairie.
Sont présents.
Un préposeur pour l'ouverture de la séance, s'il vous plaît.
Propose.
Marc.
Point 3, adoption de l'ordre du jour. Un proposeur.
Richard.
À l'ordre du jour, comme tel, vous avez un rajout à la sécurité publique 14.3, l'animation contrôleur animalier.
14.3.
Point 4.1, approbation du procès-verbal de la séance régulière du 7 novembre 2022. Un préposeur, s'il vous plaît.
Suzanne.
Point 2, approbation du procès-verbal de la séance spéciale du 21 novembre 2022.
Martin.
Point 6.
Avec un avance, c'était...
La spéciale.
De la dame.
Qui était le camion.
Le camion. Oui,
le camion.
J'étais pas là.
C'est vrai, Martin n'était pas là. Un autre proposeur.
Propose.
Marc.
C'est trop fait de date.
Point 5, mot du maire. Bon, comme vous le savez, à soir, c'est notre dernière de l'année 2022. Pour résumer, faire ce cours de l'année 2022. Saint-Chrysostome a beaucoup avancé. Il y a eu le développement dans les phases 5. Le rang Saint-Joseph a été asphalté. Il y a eu une préparation pour la piste cyclable. Je pense que je suis fier de mon conseil. Je l'ai dit, je le reste toujours. On tient une équipe qui travaille fort pour le bien de la municipalité. Décoqué, ça a bien été. On a avancé dans divers projets, dans différents comités qui sont mis en place pour la municipalité. Vous savez aussi que le mois de décembre correspond avec les taxes municipales. Je l'ai dit à réunion du mois de novembre. Je l'aurais dit à réunion du mois de cette réunion ici. Il va y avoir des augmentations de taxes. On travaille là-dessus. Le 19 décembre, ça va être l'assemblée sur le budget 2023. On essaie de penser à la population le plus possible, mais les coûts d'inflation, tout a augmenté. La municipalité n'y échappe pas. Je veux juste pas que vous restez surpris sur les augmentations de taxes qui vont avoir lieu. C'est pour dépenser, c'est pour dépenser, mais c'est pas pour garager. L'argent qu'on va gérer, on va le gérer au mieux pour faire autrement dit, continuer à faire avancer la municipalité. Je vous souhaite une joyeuse Noël à tout le monde et une bonne fin d'année. C'est tout. Mario?
Rien particulier, pas de sujet.
Non.
Moi, ouais, j'ai pas une réunion, on va passer pour l'entrevue sur le budget.
Jean-Luc?
Non, rien spécial.
Richard?
Non.
Martin. Non plus à dire pour ce mois-ci.
Suzanne. Et à vous, période de questions.
Simplement vous nommer.
Oui, Bruno Bergerin. Question, en fait, je sais qu'il y a quelqu'un qui a rentré en contact avec M. le maire concernant un accident d'un chien qui était hacké le dimanche dernier.
Oui.
Je ne sais pas si j'ai. Je ne suis pas certain là, si c'est ça qui a été ajouté dans le...
Non.
Donc, ça, est-ce que c'est, ça va être discuté aujourd'hui?
Ça ne sera pas discuté aujourd'hui, mais ça va être discuté avec le DG. C'est dans mes notes.
Okay, est-ce que je peux...
Tu peux élaborer si tu veux, s'il vous plaît.
En fait, dimanche dernier, j'ai mon chien qui s'est fait frapper. J'habite sur le rang Duncan, à la fin du rang Duncan. Mon chien s'est frappé, il est décédé. Ça fait 5 ans que j'habite à Saint-Chrysostome. Ça fait 5 ans que je me dis faut que je fasse quelque chose parce que ça roule très vite à la hauteur d'où j'habite. Nous.
Excusez-moi, monsieur.
Oui.
Pour situer les conseillers, c'est à côté de Jean-Mégabé.
Okay. Exactement. Dans le fond, Rancourville, pas Rancourville, mais la ferme Duncan, à la fin, on a deux cours. On arrive à la ferme de Maccabé, le pont, puis à Rancourville. À partir du 74 Duncan jusqu'au pont, la limite demeure la même tout le long du rang Duncan, c'est-à-dire 80 km/h. Nous, on est une quinzaine de maisons collines sur l'autre. On est un hameau de maisons à cet endroit-là. Il y a des enfants, il y a des animaux. Même s'ils sont attachés, les accidents, ça peut arriver. Il y a des piétons. Et vous savez, l'été, il y a beaucoup de cyclistes qui, à Saint-Chrysostome, le rang Duncan, depuis qu'il était là, surfacé, je vois des... Je peux voir des centaines de cyclistes en fin de semaine. La limite de vitesse, c'est 80 km/h. D'un côté, il y a deux courbes. À partir de 74 Duncan, il y a une courbe. Puis après, du 15 rang Duncan, qui est mon adresse, il y a une courbe où, avec des arbres très prononcés où on ne voit rien. On passe la courbe, on arrive entre deux maisons, dont la mienne. D'un côté, on indique, on suggère une pancarte de 55 km/h pour prendre la courbe. De l'autre côté, on suggère 45 km/h pour prendre la courbe. Mais la limite demeure 80 km/h. Donc, on s'entend, les gens, je les vois passer tous les jours. Même s'il y en a qui ralentissent, la plupart roulent entre 80 et 100 km/h à cette hauteur. Des animaux morts, j'en ai vu souvent. Il y a une pancarte d'un côté qui est même dans le fossé qui n'est pas affichée, donc la limite de vitesse n'est pas affichée. 80 km/h jusqu'au pont de le pont à Vancouver. Ce pont-là a été refait récemment. Pour une raison que j'ignore, il était fait un peu en cours. Donc les gens peuvent arriver à 90 km/h face à un pont. Là. Donc, il faut qu'ils ralentissent d'avance, mais ils ne savent pas nécessairement qu'il y a un pont là. Moi, je sais que pour certains, c'était juste un chien, un animal mort sur la rue. Nous autres, c'était un membre de notre famille, ça a fait très mal. Je vous demande de prendre en considération que la prochaine fois, ça pourrait être un cycliste, un piéton, ça pourrait être ma fille, ça pourrait être n'importe qui. C'est un coin extrêmement dangereux, puis j'aimerais vraiment ça qu'on réfléchisse à la possibilité pour cette section-là du rang Duncan, qui a une diminution de vitesse assez significative. Je vous invite à aller rouler là si vous n'avez jamais roulé là, mais 80 km/h, si les gens roulent à 90, qui arrivent dans cette courbe-là, c'est sûr, c'est une question de temps, là, que ce soit une personne qui soit frappée. Pour moi, une personne, mon chien, c'est la même chose. Pour vous, je vous demande de réfléchir à ça de façon à ce que si c'était une personne qui s'était frappée le dimanche dernier, je suis pas sûr qu'il y avait une sensibilisation plus grande par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Merci.
J'ai une question. Y a-t-il un panneau de limite de vitesse? Je suis en train de regarder.
Le panneau de limite de vitesse, qui est dès qu'on on traverse le quartier résidentiel sur Duncan, il y a un panneau de 80 km/h. Il n'y en a plus jusqu'à la fin.
OK, là, je m'en viens sur Duncan, mais en direction d'Havelock. Mais je pars d'Havelock.
Donc, vous partez du rang Corwin. Là, je traverse sur le pont. Il y a un panneau théoriquement qui est là après le pont, mais il n'y a plus de panneau. Là. Il est dans le fossé.
Ah, c'est ça, je ne l'ai pas vu. Là.
Il n'y en a plus.
OK.
Il n'est plus là. Mais s'il était là, probablement que c'est écrit 80 km/h.
Oui, mais souvent, les gens, ils prennent en considération 90 même dans les rangs comme
exact.
Ça.
Exact. Puis là, 80 km/h, c'est ce qui est indiqué juste avant ma courbe où on suggère de rouler à 45. C'est un peu absurde. Donc, il y a une panneau de vitesse. Vous dites que vous avez le droit de rouler à 80 km/h juste avant une courbe qu'on suggère de rouler à 45 km/h. Un panneau jaune. Ouais. C'est absurde. De Cowan jusqu'au 75 Duncan, il faut que la limite soit réduite. Et de toute façon, c'est même pas un kilomètre cette distance-là. Donc, quelqu'un qui roule à 80 tout le long du rang parce que c'est des champs tout le long ne verra pas son parcours ralenti considérablement parce qu'il doit ralentir à cet endroit-là. Il arrive au stop après le pont. Il y a eu un accident. Le printemps dernier, il y a un camion en pleine nuit qui est après le pont, il s'est ramassé dans le fossé en face du, je pense que c'est le 5 ou 3 Duncan, là. C'est la dernière maison avant d'arriver à Cowan. La personne n'a pas été blessée, mais c'est une question de temps. C'est un point très dangereux, on est dans une maison, il y a des enfants, il y a des animaux, il y a des piétons, il y a des cyclistes, il faut faire quelque chose.
C'est pris en considération.
Merci.
As-tu d'autres questions parmi vous? Point 8, du dépôt de documents. Tout le monde a pris des copies de la correspondance. 8.2, dépôt d'intervention et statistiques provenant du SSI au 30 novembre 2022. 8.3, dépôt du rapport des permis certificats mis pour la période du 1er au 30 novembre 2022. Point 4, rapport de l'inspecteur municipal. 8.5, dépôt et rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable. 8.6, déclaration et dons et autres avantages. Juste cet article-là, vous voulez. Conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, le LARQ CE 15.10.1, le greffier ou greffière thésaurier doit déposer l'extrait du registre de déclaration de réception de dons, marque d'hospitalité ou autres avantages faits par un membre du conseil depuis la dernière séance au cours de l'année 2022. Le directeur général et greffier thésaurier Manuel Boutiette mentionne n'avoir reçu aucune déclaration et déposée par les membres du conseil municipal relativement à un don d'hospitalité ou autre avantage reçu au cours de l'année 2022. Point 9, affirmation. Point 10, règlement, c'est beau. 11, administration, approbation des listes de la liste de dépenses du mois de novembre. Oui.
Ça aurait peut-être été bon de donner au moins les grandes lignes de ce que ça comprend comme rapport. Il ne faut pas donner la parole au directeur.
Oui, Manuel, s'il vous plaît.
On a 8.2, mais on est
8.5.
8.5, OK.
Parfait.
Parfait. Dans les grandes lignes, on a quand même une mesure des recommandations aussi faites en un dialogue ça. Donc, on a quelques petits travaux à faire quand on compte mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés au réservoir d'ici le 1er septembre 2023. Action non requise, puisqu'il n'y a pas de fuite et de débordements constatés au réservoir. Donc, ça, on est correct de ce côté-là. Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200% de longueur équivalente des réseaux où l'objectif de perte d'eau n'est pas atteint d'ici le 1er septembre. De ce côté-là, la municipalité doit réaliser un contrôle actif des fuites d'ici le 1er septembre 2023, étant donné qu'on a un petit peu en dépassement par rapport à la quantité d'eau qu'on utilise. On a un dépassement, donc il y a peut-être des fuites sur notre réseau. Donc en 2023, il va falloir engager une firme spécialisée à la détection des fuites, voir si notre réseau est correct, pour démontrer au ministère qu'on a fait ce travail-là.
C'est surtout le débit de nuit.
Exactement, le débit de nuit qu'on a une problématique de ce côté-là. À part ça, mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites. Action non requise puisque les délais de réparation des fuites sont respectés. Donc, ça démontre que la municipalité, dès qu'il y a une fuite, dès qu'elle a mis connaissance d'une fuite, fait l'action rapide pour pouvoir commenter et réparer. Par la suite, réaliser un contrôle des actifs de fuite par l'intermédiaire d'une coupe sur un échantillon de robinet. Cette action doit être réalisée d'ici le 1er septembre 2023. Donc, on revient à la technique. Soit c'est une technique, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un genre de camion qui se promène dans les rues qui détecte. Et l'autre technique aussi, c'est à partir du robinet, voir s'il y a des fuites avec une écoute au robinet. Aussi, au bilan 2021, si la pression moyenne du point est représentée à la zone, est supérieure à 60 mètres, 85 PSI, réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d'un secteur de régulation de pression. L'objectif des pertes d'eau n'est pas atteint dans tous les réseaux de distribution d'eau potable, mais la pression est inférieure à 60 m pour tous les réseaux. Réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d'un RCRP n'est donc pas requis. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien de ce côté-là. Si je continue, si cela est rentable, mettre en place un SRP, on vient de dire qu'on n'a pas besoin de le mettre en place. Installation des compteurs d'eau. Étant donné que la valeur d'eau au moins un des indicateurs de performance dépasse l'objectif, l'installation de compteurs d'eau dans tous les immeubles non résidentiels, industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes, ciblés et municipaux et d'un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel est requise d'ici le 1er septembre 2025. Donc, on a 2 ans pour mettre aux normes de mettre des compteurs d'eau dans les bâtisses municipales, institutionnelles, dont les écoles,
CSC, la résidence aussi. Donc, tout ce qui s'appelle commerce. La seule chose qu'il faut que je définisse avec le ministère, à savoir la définition pour eux de commerce. Salon de coiffeur, c'est normal. Mais un bureau de notaire, parce qu'on a besoin absolument de mettre un compteur d'eau là, c'est à voir aussi avec ça, parce qu'il y a des coûts reliés à ça. Et les 20 compteurs d'eau, c'est facile, c'est que nous, on a toutes les adresses de toutes les personnes qui ont la ressource d'eau potable. C'est un boulier électronique fait par le ministère qui permet de choisir 20 personnes de façon aléatoire. Et ces 20 personnes-là, il y a installation. Donc, la municipalité, elle, doit mettre en place un règlement pour les compteurs d'eau, doit mettre aussi une politique et par la suite doit annoncer et faire le boulier et tout ça. On a 2 ans pour faire tout ce travail. C'est un travail qui peut être ardu, parce que c'est quand même beaucoup de travail d'installation et tout ça, et le manque de main-d'œuvre. En l'intérieur de ça, les plombiers, ça doit être fait par un professionnel. Ça peut être nous qui allons installer le compteur d'eau, ou ça doit être fait par un plombier certifié, que tout ça qui doit faire ça. Donc, c'est ça ici. Après ça, on a atteint la validité des données de 50%. Ça, on n'a pas besoin, c'est aucune action aussi à réaliser. Les relevés des compteurs d'eau, c'est après 2024. Donc, le conseil va devoir se pencher à savoir est-ce qu'on prend les compteurs d'eau mécaniques ou donc une lecture qu'on doit rentrer dans la résidence et prendre la lecture du compteur d'eau ou si on prend tout l'achat de compteurs d'eau style, moi j'appelle ça style Hydro-Québec. Okay. Les compteurs, on prend ça à distance, à la salle d'une machine. On n'a pas besoin de rentrer dans la résidence et on peut faire un suivi. L'avantage qu'il y a avec le compteur électronique, c'est la donnée plus rapide à rentrer dans les systèmes de tableau et tout ça, donc on n'a pas besoin de tout retransmettre. Donc le risque d'erreur baisse un peu, parce qu'il y a une manipulation de moins de la personne. Comptage généraux, la municipalité a dépassé un des objectifs de 2021, donc le compteur d'eau doit, dans tous les immeubles résidentiels et de devises. Et l'article 2.1, étant donné que l'objectif de l'indice de fuite n'était pas atteint pour le réseau, ce dernier devait être appliqué à 200% au courant de l'année 2021 et d'ici le 1er septembre 2023. C'est sûr que moi, je voulais quand même me renseigner, c'est quoi occulter 200%? 100%, OK, mais 200%, c'est décrit à 2-3 endroits. On va essayer de savoir c'est quoi exactement 200%. Donc, c'est tout. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Merci,
madame. Est-ce que c'était clair?
Peut-être qu'il va y avoir un éclaircissement de 200%. On va bien savoir. Il
faut savoir c'est quoi exactement. Merci.
Continuons sur la liste des dépenses. Liste des comptes est payée au 5 décembre 2022, 524 825,81. Liste des paiements émis du 8 novembre au 4 décembre 2022, 242 913,9. Liste des salaires payés pendant cette même période, 33 911,60. La présente liste sont déposées aux archives sous la cote 207-120 et sous-signée Madame Bétiette, certifie sous son serment d'office qu'il y a les fonds nécessaires pour l'ensemble du budget. Point 12.
Proposeur, s'il vous plaît.
Proposeur.
Martin.
Politique administrative des employés permet des heures accumulées. Attendu que la politique administrative des employés adoptée au 25 novembre 2019, attendu que l'article 8 de la dite politique a été stipulé, sauf entendre avec son supérieur, toutes les heures accumulées doivent être prises au plus tard le 31 décembre de chaque année. Attendu de la banque de temps des employés, attendu de la banque de temps des employés municipaux, ça me prend proposeur pour payer les heures accumulées des employés municipaux en date du 31 décembre 2022.
Allez, oui.
Démission de Mme Amélie Fréchette, technicienne en prévention incendie. Attendu qu'Amélie Fréchette avait été engagée à titre de technicienne en prévention incendie pour notre service d'incendie. Attendu qu'elle a avisé M. Manuel Boutier, directeur général et greffier des Ordiers, en date du 11 novembre 2022, qu'elle quitte ses fonctions de technicienne en prévention incendie. Ça prend un proposeur pour accepter la démission de Amélie Fréchette en date du 11 novembre 2022.
Propose.
12.3. Contractuel technicien en prévention incendie. Considérant que Francis Carrière est à contrat au sein de la municipalité en tant que technicien en prévention incendie en remplacement d'un congé de maternité. En remplacement d'un congé de maternité, considérant la démission de notre technicienne en prévention d'incendie. Considérant que nous devons maintenir à jour l'inspection au niveau incendie, considérant que le directeur d'incendie, M. Paul Dagenais, le directeur général et greffier des orgues, M. Emmanuel Boutillette, ont rencontré Francis Carrière, technicien en prévention incendie, considérant les recommandations favorables à sa nouvelle offre, ça me plaît proposeur pour retenir les services de M. Francis Carrière.
Richard.
Contractuel d'entretien mécanique. Considérant les besoins au niveau de l'entretien mécanique de nos équipements municipaux, considérant que M. Jean-François Renaud, mécanicien de formation, est intéressé à travailler pour la municipalité afin d'effectuer l'entretien mécanique de nos équipements municipaux, considérant que M. Emmanuel Boutillette, directeur général, greffier des oreillers, Dominique Lillot, superviseur des travaux publics, et Suzanne Demers, conseiller et membre du comité des travaux publics, ont rencontré M. Jean-François Renaud. Considérant les recommandations favorables pour son offre de service, un proposeur pour engager M. Jean-François Renaud.
J'aimerais, par exemple, rectifier quelque chose, ajouter un élément qui est important. M. Jean-François Renaud.
Ah, de retenir les services de Jean-François Renaud en tant que mécanicien de nos équipements municipaux. Le directeur général des greffiers des oreilles Emmanuel Boutillette est autorisé à signer un contrat de prestation de services à durée indéterminée et au nom de la municipalité. Des petits détails importants. Un proposeur, s'il vous plaît.
Suzanne.
Suzanne. Eugène du milieu, on passe. Sécurité publique numéro 14, 14.1. Rapport d'évaluation et recommandation pour le chien de M. Prince.
C'est le nom du chien.
Excusez, le chien. On a le dossier. Vous
voulez dégager la lecture?
Oui.
OK.
Une page et demie.
Merci. Considérant que par l'adoption du règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, le RLRQCP 38002, révision 1, si après règlement, le gouvernement du Québec a choisi de rester dans le respect de l'autonomie municipale d'octroyer des pouvoirs aux municipalités quant à l'encadrement des chiens dangereux. Considérant que dans ce contexte, à la suite d'un événement survenu le 21 août 2022 impliquant le chien Prince, la municipalité a eu des motifs raisonnables de croire que le chien Prince présentait un risque pour la santé et la sécurité publique et a entrepris des démarches auprès d'un médecin vétérinaire pour faire évaluer son état et sa dangerosité conformément à l'article 5 du règlement. Considérant qu'après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire et avoir tenu compte des circonstances entourant l'événement, la municipalité est d'avis que le chien Prince constitue un risque pour la santé et la sécurité publique. Considérant que la municipalité a informé le propriétaire du chien Prince par écrit de son intention de déclarer le chien Prince comme potentiellement dangereux, en vertu de l'article 8 et de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 1 de l'article 11, ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci est fondée et lui a donné l'occasion de présenter ses observations et, s'il y a lieu, de produire des documents pour compléter son dossier, de tout conformément à l'article 12 du règlement. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que la municipalité déclare le chien Prince comme étant potentiellement dangereux et d'imposer les mesures d'encadrement et de contrôle suivantes afin d'assurer la santé et la sécurité des citoyens et des animaux. Les conditions de garde recommandées seraient celles imposées par la loi provinciale, le P38002, pour chien déclaré potentiellement dangereux, soit doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, l'article 22, doit être stérilisé, toujours l'article 22, doit être micro-bucé, toujours dans l'article 22, ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans et plus, article 23, doit garder au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir, l'article 24. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux. Dans un endroit public, il doit porter en tout temps une muselière panier, l'article 25, et doit être tenu
au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin. Article 25. Que la déclaration et l'ordonnance rendue par la municipalité s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, comme le prévoit l'article 15 du règlement. Que ce chien soit inscrit dans un registre municipal des chiens dangereux, qu'une copie de la présente résolution soit notifiée au propriétaire du chien Prince sans délai. Donc, proposé par...
Jean-Luc.
Et adopté à l'unanimité. Les prochaines étapes, c'est que je vais aller, la résolution que vous voyez là, elle va être transmise à monsieur, au propriétaire du chien, dont j'ai déjà rencontré pour lui expliquer, tel que demandé par le règlement. J'ai rencontré le propriétaire afin de lui informer de toutes les choses et le propriétaire accepte d'embarquer dans les clauses.
14.2, autorisation du paiement final, acquisition d'unités de service de type Ford F-550, spécialité 4 portes, 2021-2022. Attendu que lors de la réunion du mois de juillet 2021, un contrat avait été octroyé à Camion Eli 2003 Inc. pour l'acquisition d'unités de service de type F-550, pour le service d'incendie au montant de 236 128. Entendu que ce conseil a autorisé par résolution 2022-05-111 le traitement Zolatone à l'intérieur des cabinets pour une somme additionnelle de 2500 plus taxes. Entendu que le fabricant nous a avisé par courrier le 9 novembre dernier que le véhicule est maintenant prêt à être livré. Entendu que le rapport final du test de conformité selon les normes de CAN ULC S515-13 démontre que le véhicule incendie est conforme. Attendu que M. Justin Robert, chargé de projet pour la surveillance et la conception de l'unité de service, nous recommande de procéder au paiement final. Attendu que M. Manuel Boutier, directeur général et greffier trésorier, appuie la recommandation de M. Robert. Attendu que les échanges entre les parties et les pénalités. Que le conseil autorise le paiement final à Camion Eli 2003 au montant de 238 128 plus TAC. Que cette acquisition soit financée telle que décrite dans les résolutions 2021-08-2023 et 2022-05-111, improposeur.
Peux-tu enlever 2021 pour porter à conclusion? C'est vraiment 2022? Dans le texte, ça devient tout le temps, dans les minutes, on a 2021-2022.
Oui. Le contrôle, ça devrait être en 2021.
Oui, mais... On fait l'acquisition de 2022.
Oui, 2022.
OK, vous parlez que, si en mettant, je prends le prix entendu.
La dernière
fois. Après le 4-4, 2021-2022.
Oui.
OK, on va demander. Oui, on va faire ces corrections-là, ça va être apporté. Donc, tout ce qui est nommé 2021 va être retiré, sauf quand on parle de la résolution 2021-08-223.
Exact.
Vous êtes d'accord avec ça?
Et proposeur?
Marc.
Marc.
Oui.
Jamais 203. Tu demanderas, il va te dire. Moi, j'ai peut-être une question, monsieur le maire. Le paiement final, est-ce qu'on a-tu un pourcentage qu'on doit garder? Ou si on le paye dans le devis, je m'en souviens. Dans le devis, on le paye au complet. Donc, je pensais qu'on se gardait.
Une retenue?
Oui, une retenue d'un pourcentage.
Je vais vérifier, mais si je ne me trompe pas. Je vais vérifier.
Non, c'est juste.
J'ai un blanc, moi aussi. On a travaillé fort hein, sur ce dossier-là. Mais j'ai un blanc. J'ai un doute dans mon esprit.
Ben, moi avec.
OK.
Je regarde avant de venir.
On va-tu l'avoir pour Noël?
Oui, qui veut. Mais sans qu'on se rende compte si les choses sont là ou qui.
C'est pas la disponibilité de M. Paul.
C'est ça, je voulais
savoir. Notre directeur incendie, s'il nous
ferait un chou rouge, ça sortirait pas sur l'autre.
Un chou rouge, c'est bien vous.
Rouge?
Ben oui, c'est
rouge. On va donner une grosse tempête demain.
14.3.
Merci.
Nomination du contrôleur animalier. Attendu que l'article 63 de la loi sur les compétences municipales, LRQ, chapitre C, 47.1, permet aux municipalités de conclure une entente avec toute personne pour autoriser et appliquer un règlement de la municipalité de Saint-Chrysostome concernant les animaux. Attendu que l'offre de service déposée par Isabelle Robert pour s'occuper du service animalier de la municipalité en collaboration de cette dernière avec le refuge Nali, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution de désigner Isabelle Robert contre l'Eugène Maillard sur le territoire de l'MSPD de Saint-Chrysostome.
Ça va terminer aussi. D'autoriser
Isabelle accéder Robert. Aux immeubles, d'autoriser Isabelle Robert à accéder aux immeubles afin de réaliser les inspections requises et de faire le nécessaire pour appliquer et faire respecter le règlement en vigueur sur le territoire de l'MSPD. Assigner tous les avis et les contrats d'infraction et autres documents requis pour fin d'application de la réglementation en vigueur. Un proposeur, s'il vous plaît.
Jean-Luc.
Point 15, urbanisme et inspection. 15.1, plan directeur du développement économique. Mandat supplémentaire. Entendu qu'un mandat a été donné par résolution 2021-10-278 à M. Louis Lacroix afin d'élaborer un plan directeur pour le développement économique de la MSPD. Attendu qu'un mandat supplémentaire d'entraîneur est requis afin de finaliser le tout, d'accepter le mandat supplémentaire pour un montant maximal de 4 000 et que cette dépense soit prise à main le budget de fonctionnement. Un proposeur, s'il vous plaît.
Parfait.
Point 15.2, demande d'autorisation à la CPDAQ, lot 5483-601. Considérant M. Éric R., propriétaire du lot 5483-601, désire déposer une demande d'autorisation pour le lotissement et l'aliénation d'une partie de l'eau en vue d'une cession de superficie d'environ 3,35 hectares en faveur de sa mère, Mme Lynn Hart. Considérant que pour rendre sa décision, la CPDAQ se basera sur les critères additionnels énumérés à l'article 62 de le LPTAA, en prenant et considérant les effets pertinents à cette disposition, dont voici la réglementation relative. Maintenant, tu veux tourner le point 1.
Le potentiel agricole des lots et des lots avoisinants. Selon la carte du potentiel agricole des sols sur l'eau visée par la demande et des lots avoisinants, celui-ci est de classe 4PT, avec certaines contraintes. Il comporte donc des limitations atteignant gravement une ou plusieurs des pratiques suivantes. Temps et facilité d'exécution des travaux de préparation du sol, ensemencement et moisson, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols sont peu ou passablement productifs pour un choix raisonnablement étendu de culture, mais ils peuvent avoir une productivité élevée pour une culture spécialement adaptée. Il est affecté d'une sous-classe de type P, c'est-à-dire d'une périosité nuisant aux travaux de préparation du sol, et d'une sous-classe de type T, c'est-à-dire qu'il présente un relief défavorable limitant l'utilisation pour l'agriculture. Point 2. Les possibilités d'utilisation des lots visés à des fins agricoles. Certaines pratiques agricoles sont possibles, mais limitées par le potentiel indiqué au paragraphe 1. 3.3. Les conséquences d'une autorisation sur les activités agricoles existantes et sur le développement de ces activités agricoles ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants. Aucune activité agricole existante sur le lot visé et peu d'impact sur les activités agricoles avoisinantes, puisqu'il s'agit d'un lotissement et d'une aliénation. Point 4. Les contraintes et les effets résultants de l'application des lois et règlements, notamment en matière d'environnement et plus particulièrement pour les établissements de production animale. Ceci n'aura aucun impact et il n'y aura aucun changement pour les établissements de production animale à proximité. Point 5. La disponibilité d'autres emplacements de nature à être éliminés ou réduire les contraintes sur l'agriculture non applicables. Pardon. Il ne s'agit pas d'une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. Point 6. L'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Aucun impact sur l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole, puisqu'il ne s'agit pas d'un lotissement ou d'une aliénation sur un site où ne sont pas pratiquées des activités agricoles. Point 7. L'effet de la préservation pour l'agriculture des ressources eau et sol dans la municipalité et dans la région ne s'applique pas. Point 8. La constitution de propriétés foncières dont la superficie est suffisante pour y pratiquer l'agriculture. La CPDAQ jugera de ce critère. Une activité agricole de plus petite échelle et adaptée aux contraintes présentes pourrait peut-être s'y installer. Point 9. L'effet sur le développement économique de la région sur preuve soumise par une municipalité régionale ou comté, une municipalité, une communauté, un organisme public ou un organisme fournissant des services d'utilité publique non applicable. Il ne s'agit pas d'une demande d'utilisation à des fins autres que l'agriculture. Point 10.
Les conditions socio-économiques nécessaires à la viabilité d'une collectivité lorsque la faible densité d'occupation du territoire le justifie ne s'appliquent pas. Donc, pour ces motifs, appuie la demande de M. Hart, Eric Hart, propriétaire du lot 5483601, visant à autoriser le lotissement et l'alignation d'une partie de l'eau en vue d'une cession d'une superficie d'environ 3,35 hectares en faveur de sa mère, Mme Lynn Hart. Pour ces motifs, proposés par le conseiller.
Ça contrevient aucun règlement municipal.
Pardon?
Sa demande contrevient aucun règlement municipal.
Aucun?
Mario.
Le travail a été fait avec un pied.
Avec qui?
Philippe Meunier. T'as même pas voulu me parler ici.
Gestion Renault Solutions Inc. Soumission au retrait d'amiante du garage municipal 101 rue Saint-Alexis. Attendu que la municipalité doit procéder à l'extraction d'amiante au garage municipal situé au 101 rue Alexis. Attendu que l'offre de gestion Renault Solutions au montant de 8 470 plus taxes pour procéder aux travaux, d'accepter l'offre de gestion Renault Solutions telle que présentée, que le montant de cette dépense sera pris dans le programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux de la Prabam. Un proposeur.
Richard.
Point 17, loisirs et vie communautaire. Fondation éducative CVA demande une contribution financière. Considérant que la Fondation éducative CVA nous a fait prendre une demande d'aide financière afin de reconnaître les diplômés exceptionnels dans leur étude et leur vie étudiante, considérant que des élèves de notre municipalité fréquentent cette école, de verser une somme de 100 $ en guise d'aide financière. Un proposeur, s'il vous plaît.
Marc.
Je peux-tu revenir, M. le maire, sur le point précédent?
16.1, oui.
Est-ce que ce serait possible, M. le directeur, de spécifier c'est quoi cette subvention-là?
En fait, la subvention du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux vient directement du ministère et du gouvernement plutôt. Et elle nous permet de faire des rénovations sur nos bâtiments. C'est exemple, on est prêt à travailler à demander des prix et tout ça pour rénover certaines installations à la caserne actuellement qui a déjà 30 ans. Donc, ça nous permettrait de financer. Au garage Saint-Alexis, la problématique, c'est qu'on a un mur qui est après reculé un peu, donc on voulait le faire réparer et a été constaté par la suite, avant de faire les rénovations, qu'il y avait des panneaux de ciment amiante, je veux dire ça comme ça, je ne suis pas sûr du bon terme, qui faisaient en sorte qu'ils devaient être retirés avant toute rénovation. Donc pour rendre ça sécuritaire aux employés qui vont venir faire les rénovations. Donc on peut prendre ça aussi là-dedans. Pourquoi? Parce que ça fait partie d'une rénovation. C'est un montant, je peux le dire, le montant de 132 132 qu'on a reçu. Et qu'est-ce qui est extraordinaire dans cette subvention-là, c'est que la municipalité n'a pas un sou à mettre aussi. Souvent, les programmes de subvention, on parle de 20, 80-20 ou 60-40 qu'on doit faire, ou du 33-33. Donc, cette fois-ci, on n'est pas dans l'obligation de fournir un montant de la municipalité à l'intérieur. Oui, c'est pas du coup des bases, c'est la municipalité qui assume, mais ce n'est pas l'obligation de la subvention. Est-ce que c'est clair, monsieur?
Peut-être finir en spécifiant les projets projetés pour l'ensemble.
Les projets projetés, oui, j'ai déjà parlé un peu de la caserne, j'ai parlé du garage Saint-Alexis. Après ça, il y a aussi les systèmes de climatisation et de chauffage pour la salle communautaire. On a actuellement trois appareils de thermopompe, dont deux sont brisés. Et surtout, on travaille encore au mazout. Là, maintenant, on va le rendre 100% électrique et on va éliminer le mazout déjà d'un bâtiment. Ici, on va rajouter aussi des aires climatisées pour le quatrième. Aires climatisées, on va voir selon les coûts, aires climatisées et chauffage combiné pour les deux étages, le troisième et le quatrième étage. Pour la simple raison, c'est qu'au quatrième, on a nos archives. Nos archives en plein été, si vous allez voir au quatrième, en plein été, c'est très, très, très chaud. Et tout ça, ce qui fait qu'il peut avoir une détérioration plus rapide de nos archives. Nous avons des archives ici qui datent de 1900, du début du siècle. Donc, ce serait important de pouvoir les préserver. Et c'est un des moyens de faire aussi avec, on s'entend bien, qu'il risque d'y avoir besoin d'un humidificateur. Mais ça, on ne peut pas le rajouter dans le programme, mais je vous parle d'amélioration des bâtiments.
Mario, c'est-tu la salle, Mario? La salle là-bas, c'est l'électricité marche avec un pic.
Non, mais c'est un entrée 550.
550?
Oui. Ça date du temps de l'usine.
Il faut faire attention pour le prix. Sinon, on boit tant mieux. Mais...
Ben, 550
avec un
meter retour. Parfait. Bonjour.
Actuellement, je suis aussi, d'abord, je peux peut-être rajouter, je suis avec Hydro-Québec, avec leur fameux programme ILO. Ils sont rendus à faire des entreprises. Nous, on ne capte pas pour l'instant, parce qu'ils font seulement les grandes entreprises à superficie très grande et tout ça. Mais j'ai demandé qu'on soit dans un projet pilote. Je vais lui donner notre nom, la municipalité, pour qu'on soit dans un projet pilote de ce programme-là. Donc, c'est un programme de récompense. Si on réussit, M. Baudin demande souvent d'avoir un contrôle de nos systèmes de chauffage à distance pour s'assurer que, quand il y a une activité, que le chauffage redescende suite à l'activité. Mais ça nous permet aussi d'accumuler de l'argent pour pouvoir... C'est une économie qui nous fait par rapport à ça.
Parce que, dans le fond, les choix, les options qu'on avait, trois unités différentes, un peu résidentielles, pour faire le chauffage et la climatisation. C'était trois soumissions comme ça. Puis une seule était une grosse unité triphasée.
35 tonnes, je
pense. Ah, c'est 8 tonnes. Bien, non, il y a 3 5 tonnes pour la climatisation, mais tu as un 58 kW.
OK.
Qui est pour
le chauffage.
54 ou 58, 54. Je ne me souviens pas, mais proche, c'est deux fois la capacité de 3x10.
Parfait.
Ben, ça devrait être suffisant pour remplacer le problème actuel.
Ça va pas être pire.
C'est bon.
Merci. Point 17.2, programme de soutien aux politiques familiales et municipales, demande de prolongation. Attendu que le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le programme de soutien aux politiques familiales municipales qui vise à augmenter la proportion de la population vivante dans une municipalité dotée d'une politique familiale municipale et d'un plan d'action en faveur des familles. D'appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent le mettre à jour. Entendu que la municipalité de Saint-Chrysostom a présenté en 2018 une demande d'appui financier admissible pour l'élaboration et la mise à jour d'une politique familiale dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales. Tandis que la municipalité désire prolonger sa participation, un proposeur pour demander au ministère d'une prolongation de sa participation au programme de politique familiale municipale jusqu'au 31/2023, soit pour une période de 11 mois en raison de l'avancement du projet à 50 % le risque de perdre des subventions futures, car la politique et son plan d'action ne sont pas mis à jour, et que tous les moyens soient mis en place pour s'assurer que les délais soient respectés. Un proposeur, s'il vous plaît.
Jean-Luc.
Période de questions.
Oui. Vas-y, monsieur. Monsieur
Robert.
Non. Il y en a quelques-unes,
en fait. Oui, c'est le terme.
Par rapport au point 14.1, le propriétaire de Stanley. Là, je vois qu'il y a des mesures qui sont mises en place pour protéger, j'imagine, les citoyens de ce chien-là.
Oui.
Est-ce qu'il y a des mesures à mettre en place pour modifier cette somme ou ce propriétaire-là?
C'est déjà fait. Moi, j'ai été le rencontrer. On a regardé et on a fait une approche écosystémique avec lui. Okay. On a fait venir sa fille et ses garçons sont au courant. Okay. Et tout ce que la démarche qu'il doit faire, c'est pour cette raison-là. C'est un homme âgé. Je ne dirais pas son âge, mais c'est un homme assez âgé. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a fait une approche de ce type-là, écosystémique. Le vétérinaire, on est venu à la maison pour faire l'évaluation. J'étais présent. Donc, on a été présent. C'est rare. En tant que directeur, je serai plus sûr la prochaine fois. Là. Mais habituellement, ça va être Mme Robert qui va faire ma place. Mais étant donné que c'était une première qu'on me convivait, j'ai fait le processus avec eux. Oui, il y a une vraie éducation.
Super. Faire ça. Une autre question par rapport à ça, la contrôleur Annalias qui s'en vaut, c'était particulièrement pour cette situation-là, où là, c'est une action qui est prise pour le long terme.
Je peux expliquer, c'est qu'on l'avait déjà avant. C'était ça aussi. Nous, on a les services, on fait plus affaire avec le STCA, on a demandé 3 prix, ça c'était le mois passé.
Okay.
On a demandé 3 prix et c'est Mme Robert qui offrait le meilleur des services pour le prix.
Elle, c'est quoi son
background? Les contrôleuses, à une manière, elle, depuis des années, depuis toujours, elle fait ça depuis une vingtaine d'années, on l'a rencontrée. Et depuis, elle a vraiment une expertise. Moi, j'ai été chercher l'expertise des autres municipalités avant même de...
Okay. Elle, c'est dans le fond, elle est spécialisée dans le monde municipal.
Exact. Elle fait du monde municipal, oui.
OK.
Elle-même, elle a un refuge chez elle.
OK. Elle a un refuge.
Oui.
Puis est-ce qu'elle a, elle a dans le fond son équipement déjà?
Oui.
Vous faites juste la... C'est contractuel ça?
C'est contractuel, oui.
Okay.
C'est à chaque année.
À chaque année, vous allez
pour revoir si sur trois. Sur trois.
Puis elle, en tant que, au niveau des, en tant que contrôleur, mais jusqu'à la SPCA, souvent, quand une municipalité fait affaire avec la SPCA, s'il y a une colonie de chats, la SPCA peut se déplacer pour déplacer ou régler une situation d'une colonie de chats en place. Est-ce qu'elle est apte, en tant que, puisqu'elle est seule, de faire des déplacements de colonie de chats?
Nous, la municipalité a décidé de ne pas prendre ce service. On l'aurait pu prendre, mais ça aurait été un service supplémentaire, un coût supplémentaire.
Je comprends. Puis la raison autre, il n'y a pas d'autre raison que le coût, en fait, pour...
Pour l'instant, c'était surtout avec ces là-dessus.
OK. Parce que les colonies de chats, c'est quand même problématique. Là.
Ouais.
OK. Fait que ça, c'est une décision qui est pour 3 ans, c'est on les colonies
de chats. On peut voir avec le conseil. C'est, mettons, on n'a pas eu de son, on n'a pas eu grand monde qui nous avait pour les colonies de chats. On va être franc, moi, ça fait 2 ans que je suis ici presque.
OK.
J'ai eu une seule fois une demande pour un chat errant.
Ouais, c'est parce que le monde les tire.
C'est
genre c'est ça, non, mais tu sais, c'est ça. C'est, moi, je ça ne serait pas des choses sur mon terrain, mais il y a des choses sur mon terrain, il y en a partout. Mais de toute façon, le colis de chat, s'il n'y a pas tant de demandes que ça, est-ce que c'est un service qui peut être ponctuel? Est-ce que c'est un.
Je peux pas. Il faudrait que je vois.
Je connais pas tout ça, mais ça doit. Il faut que ça provienne d'une information qui nous est véhiculée. Donc, je ne sais pas comment ça marche.
Et à date,
si on. Si on n'est pas au courant de ça, on ne peut pas le savoir.
J'imagine que si ça arrivait, on pourrait probablement...
On demander des services supplémentaires.
Et ces services à un coût ponctuel.
Ouais, moi, j'ai déjà appelé, puis je connais d'autres gens qui ont appelé. Puis ce qu'on se fait dire, c'est qu'on n'offre pas ce service à la ville parce qu'on n'avait pas de contractuel avec la SPCA pour lui. Fait qu'il faut payer pour ce service-là. Parfait. Mais là, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas non plus un service qu'on va avoir. Donc, parce qu'on considère que... Mais pourtant, je sais que sur ce soir, on peut avoir appelé. Donc, à ce moment-là, est-ce que c'est parce qu'il faut se présenter au conseil pour que tu
aies formulé ça? On a des règlements municipaux sur le nombre de chats, de chiens, de...
Pardon?
On a des règlements municipaux sur le nombre de bêtes.
Ouais, c'est pour quelqu'un qui est à la maison, mais pour quelqu'un qui en a 40 sur son sa galerie qui est nourri.
Il serait non conforme.
À ce moment-là.
Donc, il y avait la personne qui s'occupe du contrôle animaliste. Là, il était assez là pour donner un constat.
Si ils sont maltraités, c'est la même chose.
Ben, moi, c'est que j'en ai qui dorment dans ma boîte à compost, qui ont des tics partout sur eux autres. Il y en a qui se font frapper dans la rue. Moi, là, mon chien, il se fait un party le soir.
Il dorme dans la boîte de compost après le décès ou avant le décès?
Comment?
Il dorme dans la boîte de compost avant ou après le décès?
J'imagine que ça va être un mix des deux. J'imagine que je vais engraisser mon jardin avec du chat éventuellement. Mais la problématique, c'est. Tu sais, mon chien, vraiment, que c'est dimanche dernier, c'est ça qui est arrivé. Il y avait un chat, puis il est parti, puis c'est l'état de son collier. Mais. C'est un accident, mais reste que là, il y a des chats, c'est fou, là. J'en vois partout dans la rue, des morts, des écrasés. Les chats, ils souffrent, là, ils sont pas bien, ils dorment dehors, l'hiver s'en vient. Puis là, ça, c'est proche de chez moi, mais tu sais,
s'il y a de la maltraitance,
c'est
de la maltraitance, c'est provincial.
En fait, c'est pas de la maltraitance, c'est que la personne nourrit les chats, ça coupe. Ils sont rendus à la troisième portée depuis le printemps. Quand vous pensez que c'était le chat, ça se multiplie.
Mais ces chats-là, c'est des chats errants, c'est pas des chats à partir.
C'est des chats errants.
Fait que tu sais, faire une soirée courte, on n'a pas.
Comment?
On n'a pas de protection.
Ouais, c'est ça. Mais là, c'est quelque chose qui n'est pas actuellement parce que vous ne l'avez pas pris en considération. Mais si c'est quelque chose qui vous est apporté au conseil municipal par plus qu'une personne, ça veut dire que ça pourrait
donner. Il faudrait qu'il y ait des problématiques à la date aujourd'hui, en vrai, en temps,
on n'avait pas parce qu'il n'y avait pas de demande.
OK.
S'il y avait une demande à tous les semaines, je ne sais
pas. Ça devient des problématiques.
Pas vous, je viens de ça tous les semaines.
Non, c'est parce que ça reste tout le temps le même.
Ben, tu peux venir jouer sur une
situation.
Même à tous les jours.
OK. Mais, par exemple, les ouvertures, est-ce que ce service peut être acheté si vous considérez que une personne n'a pas de place?
Écoute,
ouais.
C'est une problématique qu'on
voit dans le compte.
OK. Ben là, il y en a une, mais je vais aller voir les bons.
Pour qu'il s'appelle la stérilisation et tout ça, elle ne fera pas d'intervention sur la stérilisation parce que c'est des coûts supplémentaires. Et si vous avez trop de chats, elle va se déplacer.
OK, parfait.
Elle va se déplacer.
Tu vas y aller commencer par ça, puis on peut.
Mais le contrat commence à tomber janvier. Je te dis, on va dire.
Fait qu'on prend ce jour pendant les fêtes.
Désolé,
mais...
Premier janvier.
Ben, c'est bon. J'ai d'autres questions.
Vas-y.
Super.
Un petit musulman.
Ça vous va? Ça
va? Pas de problème des questions?
Ouais. OK. 15.2, y a-t-il moyen de me l'expliquer en tant que simple commun des mortels? C'était long. J'ai pas compris c'est quoi exactement la demande de cette affaire.
Très rapide. On a un grand terrain.
Ouais.
Le terrain, c'est une terre. Ma part, c'est une terre dont il y a une résidence. La personne veut détacher la résidence de son lot.
Okay.
Donc, elle veut faire un lot spécialement pour la résidence seulement.
Okay.
Donc, c'est pour cette raison-là. C'est ça une alignation. Et il faut qu'elle fasse une demande à la CPDAQ pour pouvoir détacher. Pour le droit à 5000 mètres carrés. Pour dédager la résidence.
Puis le but, c'est de vendre le terrain, j'imagine?
Non, c'est pour sa mère. À des fins, il faut que ça reste dans la famille et elle a besoin de la famille. C'est bien ça, M. Anderson, pour pourquoi je me trompe?
Ouais. Moi, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça permet à la personne de vendre le terrain par après?
C'est déjà arrivé, oui.
Il y a le droit.
Par la suite, c'est déjà arrivé. Ouais. Okay. La meilleure exemple, c'est mon ancienne résidence. Elle faisait partie d'un lot qu'on avait retiré la maison de résidence. Le propriétaire qui avait la terre habitait chez moi, puis c'est moi qui ai acheté la maison pour la suite.
Ouais. C'est comme...
Il y a des choses qui arrivent toujours.
Parce que toi, ton terre, tu peux détacher ta maison, tu peux en terre à ton voisin. Ou
ouais, après ça, tu dois te reconstruire une autre maison, ça va.
C'est ça, la terre, la terre.
Quand il y a une demande de même à la CPT,
parce qu'à un moment
donné, on
peut toujours faire un demande.
On demande l'appui du conseil municipal, dans le sens, est-ce que des règlements à la demande actuelle? Parce que nous, on a des règlements qui contreviennent à sa demande. Si nous, on n'a pas de règlement qui contrevient à ça, ça va à l'autre étape. Ça va être au commissaire de la CPTAQ d'analyser le dossier. C'est pas parce que la municipalité a dit oui qu'un certain commissaire va dire oui. C'est vraiment les commissaires qui ont le dernier mot là-dessus. Mais c'est sûr, avec un appui positif, ça aide le dossier. Tu comprends, c'est ça. Et si c'est négatif, les autres vont creuser pourquoi le négatif. On n'appuie pas là-dedans. Ça ne se rendra même pas à la CPTAQ.
Ce terrain-là va donner le terrain qui gagne.
Ça ne veut pas dire qu'ils vont obtenir ce qu'ils demandent, mais ça va être à négocier avec les commissaires. Puis la qualité des sols est plus en compte. Il y a plein des éléments qu'il a nommés, la proximité des autres fermes, il y a plein d'éléments qui sont évalués là-dedans avant d'aller aux critères de dire oui ou non au projet.
Okay. C'est ce que tu as une décision finale.
Ah,
question.
Ça
ne
te dérange pas.
Mais ça ne
te
dérange pas?
Ouais.
On est là. S'il n'y aurait pas de période de questions, je ne devrais pas y répondre.
Ouais, mais tu as senti pas avoir un fatiguant ce soir.
Si vous vous considérez comme un fatiguant, là, je vous dire que vous êtes du dessert.
16.1, je voulais juste parler de chauffage de mazout. Est-ce qu'on a beaucoup de bâtiments à Saint-Christophe qui est encore sur le point de
vue? Actuellement, on est ici. Oui, c'est un autre chose. On peut voir sur 4 étages, donc c'est une fournaise de l'Omazou. On a un garage municipal, on a la caserne aux gaz.
Deux garages,
sur la Bordeaux, puis au Mazout et la salle communautaire qu'on est devrait rectifier. C'est sûr que ça prend des grands moyens pour tout mettre ça à des systèmes.
Est-ce qu'il y a comme un...
Il n'y a pas de subvention comme telle pour les municipaux.
Puis y a-t-il une volonté ou un plan qui met en place pour court, moyen, long terme pour rendre la ville...
C'est pas pour parler, mais... C'est les budgets, là.
Je comprends. Mais il y a une volonté
politique. Oh, c'est sûr, on n'a pas le choix. Là, il faut faire attention. Même l'électricité, on ferait réduire le gouvernement provincial l'a dit la semaine passée. Il faut réduire la consommation, soit l'électrique aussi. On s'en va vers l'électricité, parce que le mazout il est plus polluant, mais même l'électricité, il faut s'en aller vers une économie d'énergie le plus strict possible.
On est tout le temps appris à une saine gestion des dépenses. Tu sais, niveau de conservation des annonces. Si on a de plein de grands projets, on peut avoir plein d'idées, mais maintenant, ça prend des finances pour suivre.
Mais c'est juste si on s'arrête toujours à dire que ça va coûter trop cher, ça aussi. Mais si vous mettez un plan en place ou une volonté pour faire une saine gestion de dépenses tout en se dirigeant vers ça, c'est déjà
c'est ce qu'on essaye de faire, je te dirais.
Ouais. Je vais vous présenter, vous dire votre nom.
Ouais. Claude Julino. Je pas de cinq personnes, je suis de Walton, c'est mon genre, je suis en visite. Mais j'écoutais, j'en ai été à mon assemblée municipale, c'était la même soirée. Tu as parlé des subventions gouvernementales pour rénover les bâtiments municipaux.
Le probable.
OK. Est-ce que tu peux présenter plus qu'un projet par année ou il y a une limite de montant?
Là, le probable est venu, c'est un effet de vie de la COVID, le probable, un peu. C'est un peu à ça, ça a été fait surtout dans ce sens-là. Oui, il y a des programmes pour les bâtiments, rénovation et tout ça, ou même pour nouvelle construction. Il y a des programmes qui existent, mais très peu de programmes sur le changement énergétique. Plutôt rare, ça c'est au fédéral, avec la FCCM, la FCC, plutôt la Fédération des FCM, plutôt. La Fédération canadienne des municipalités. Donc là, il y a certains programmes, mais c'est des programmes d'études. Donc, des études, on peut en faire. Mais on sait très bien où on s'en va, on sait très bien qu'il y a des changements à faire. Et tout ça, c'est quand on vient pour faire les changements, des fois le financement est plus tôt.
Non, mais je voulais parler plus spécialement, ce que tu as parlé de votre garage, là, pour la subvention que tu as eue pour enlever l'amiante.
Oui.
C'est des rénaux, là. Tu peux-tu faire plus qu'une demande? Mettons, tu arrêtes le garage, tu arrêtes la caserne.
Oui, dans 132 000, 132 actuellement, on fait plusieurs bâtiments avec.
OK.
On touche plusieurs bâtiments, on n'est pas obligé d'avoir un seul bâtiment. C'est pas une demande. Le problème est très, très, très particulier. On n'a même pas eu à identifier un bâtiment. On a eu la somme sans le demander.
Ah, OK.
C'est rare. Oui. On
ne
verra pas ça souvent.
On verra ça, ça
n'a pas un problème. C'est ça, quand Noël part chez vous, je suis bien content.
Il est passé dans toutes les municipalités du Québec.
Dans toutes les municipalités?
Le problème existe.
OK. On va poser des questions.
On va à la prochaine séance de conseil.
Oui, on va aller après.
On va un peu fatigué en voiture.
Les compteurs d'eau, en 2025, ça va être obligatoire partout.
On parle d'institutions.
Mais toutes les municipalités, je veux dire?
Non, ça, c'est les municipalités qui n'atteignent pas. On a une chose qu'on a échoué. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on échoue quelque chose la stratégie des communes d'eau potable, c'est ça le vrai terme. Dans cette stratégie-là, dès qu'on a un point qu'on n'a pas atteint, on est dans l'obligation de faire ça.
OK. Puis là, ça, tu vas choisir 20 entreprises.
C'est pas moi qui vais choisir. Non, les entreprises, tout ce qui s'appelle commercial, tout ce qui s'appelle institutionnel, tout ce qui s'appelle municipal, doit avoir des contrôles.
S'il y en a 5.
Par la suite, c'est 20. Oui, 65 entreprises sur le territoire. Et par la suite, il y en a 65. En milieu urbain, je ne peux pas vous le dire, mais on en a 65 en tout. Par la suite, c'est 20 résidences privées faites aléatoirement qui vont être choisies par un boulier. Un boulier informatique. C'est une feuille Excel où tu comptes le boulier.
Okay. Là, ça veut dire que si maintenant j'habiterais ici, puis ma boule sort.
Oui, on installe un compteur chez vous. Avec une permission, on a. Il y a
le compteur, tu l'expliques, c'est pas pour une charge d'eau.
Non,
pour avoir les
données. Pour avoir une évaluation. Exactement, un estimé et tout ça. Il y a trois colonnes au bout du compte. On a une première, deuxième, troisième. Si la première personne, pour des raisons X, Y, Z, qui sont déjà dans le règlement et inscrites, qui ne peut pas ou qui ne veut pas ou que ce n'est pas accessible, mais on peut changer la maison 2. Dans la même ligne. C'est dans ce sens-là, le boulier est bien fait pour ça.
Puis vous parliez des compteurs d'eau mécaniques ou intelligents.
Ouais.
Parce que c'est sûr que la mécanique est moins chère que l'intelligent, mais la prise d'information, c'est quelqu'un de la ville.
Oui, ce serait quelqu'un de la municipalité.
Il faut payer un employé pour aller faire ça, ou du moins prendre son temps pour aller faire ça.
Exactement.
Finalement, est-ce que vous avez songé au calcul de faire.
La
différence est tellement importante que.
Je vais être honnête avec vous. Moi, je l'ai fait dans une autre municipalité, mais ici, on l'a reçu il n'y a pas longtemps. On dépose le rapport aujourd'hui.
Okay.
Donc, là, il va falloir travailler. La première étape, c'est la réglementation et la politique. C'est la première étape qui va définir les coûts. Parce que, selon les volontés du conseil, ça peut être 100% payé par le contribuable ou 100% payé par la municipalité pour les résidentiels, mais pour les commerciales, c'est le. Vous comprenez? Donc, il y a des décisions à prendre avant tout.
D'accord. Okay.
D'autres questions? Salut les gens de l'Estrie de la part.
On va faire ça. On va aller déranger l'autre.
Un proposeur peut lever d'assemblée, s'il vous plaît. Parfait.
À 20h30. C'est une.
Juste pour ajouter.